Évangile selon Marc, Samuel Prodan, chapitre 1er. Caractère de l'Évangile selon Marc. En commençant notre étude sur Matthieu, nous avons remarqué que les quatre évangiles portent chacun un caractère spécial, chose importante à retenir pour comprendre la pensée de Dieu dans ses différents écrits. Dieu nous donne par ce moyen la facilité de comprendre les diverses gloires de la personne de son Fils dans sa manifestation ici-bas, bien mieux que nous ne pourrions le faire avec un seul récit. Nous ne reparlerons pas du caractère des trois autres évangiles. L'Esprit de Dieu s'est servi de Marc pour présenter Jésus dans son activité de serviteur et de prophète. Moïse en parle en Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi, du milieu de toi, d'entre tes frères. Les trois premiers versets d'Ésaïe 42 décrivent le caractère d'humilité de ce serviteur parfait, tel qu'il l'a manifesté dans son service.
Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Il ne criera pas et il n'élèvera pas sa voix et il ne la fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas le lin qui brûle à peine. Il fera valoir le jugement en faveur de la vérité.
Le peuple d'Israël, appelé plusieurs fois par Ésaïe serviteur de l'Éternel, mais infidèle sous ce rapport, comme en tout point, est remplacé par Christ qui a accompli son service en toute fidélité au milieu du peuple, mais dont le rejet a ouvert la porte de la bénédiction aux nations. Ésaïe 49, versets 4 à 6.
Et moi j'ai dit, j'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force pour le néant et en vain. Toutefois, mon jugement est par-devers l'Éternel et mon œuvre par-devers mon Dieu. Et maintenant, dit l'Éternel, qui m'a formé dès le ventre pour lui être serviteur, afin de lui ramener Jacob, quoique Israël ne soit pas rassemblé, je serai glorifié aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu sera ma force. Et il me dit, c'est peu de choses que tu me sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob, et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre.
Le magnifique chapitre 53 d'Ésaïe, ainsi que les trois derniers versets du chapitre 52, parlent de ce serviteur. Au verset 11, il est dit, par sa connaissance, « Mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs, et lui, il portera leurs iniquités. » C'est ce qu'il a accompli selon les termes du psaume 40, verset 9-10, J'ai annoncé la justice dans la grande congrégation. Voici, je n'ai point retenu mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je n'ai point caché ta justice au-dedans de mon cœur. J'ai parlé de ta fidélité et de ton salut. Je n'ai point scellé ta bonté et ta vérité dans la grande congrégation. Tous les évangiles racontent ce service, il est vrai, mais Marc présente le caractère de Jésus comme serviteur, dans l'accomplissement de son service, comme Matthieu le Messie, Luc le Fils de l'homme et Jean le Fils de Dieu. Dans son évangile, Marc suit l'ordre chronologique des faits, c'est-à-dire qu'il les raconte dans l'ordre dans lequel ils eurent lieu. Mais pas plus que les autres évangélistes, il ne rapporte tout ce que Jésus a fait et dit. Il prend, parmi les actes innombrables accomplis par le Seigneur, ceux propres à présenter la pensée de Dieu à l'égard de son Fils, en nous disant ce qu'il nous était utile de connaître, et non pas tout ce qui nous aurait intéressé. Voyez ce que Jean dit de son récit, chapitre 21, verset 25 de son évangile.
Et il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles, si elles étaient écrites une à une, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qui seraient écrits.
Et le but de son écrit, chapitre 20, versets 30 et 31.
Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom. »
Marc n'était pas l'un des 12, neveu de Barnabas. Nommé Jean en acte 13, versets 5 et 13, il est appelé Marc en acte 15, verset 37. L'apôtre Paul ne voulut pas le reprendre avec lui parce qu'il l'avait abandonné. Acte 13, verset 13.
Et faisant voile de Paphos, Paul et ses compagnons se rendirent à Perge de Pamphylie. Mais Jean, s'étant retourné d'avec eux, s'en retourna à Jérusalem.
Mais on le retrouve avec Paul en Colossiens 4, verset 10.
Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, et Marc, le neveu de Barnabas, touchant lequel vous avez reçu des ordres. S'il vient vers vous, recevez-le.
Et le même apôtre le réclame en 2 Timothée 4, verset 11.
Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service.
C'est chez sa mère, nommée Marie, que plusieurs personnes étaient rassemblées et priées pour la délivrance de Pierre. Acte 12, verset 12.
S'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc. Plusieurs étaient assemblés et priés.
Marc eut sans doute affaire avec Dieu au sujet de son service d'une manière toute particulière. Il dut apprendre que, pour servir, il faut mettre de côté toute considération charnelle, légitime ou non, et juger ce qu'il avait engagé à abandonner Paul pour aller avec son parent Barnabas. Ces expériences le préparèrent évidemment à être l'instrument du Saint-Esprit pour présenter le serviteur parfait dans son activité et son dévouement jusqu'à la mort. Que Dieu nous donne de l'écouter.
Prédication de Jean le Baptiseur, versets 1 à 8.
Lecture de la parole. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Comme il est écrit dans Ésaïe le prophète, voici. Moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Jean vint, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance en rémission de péché. Et tout le pays de Judée et tous ceux de Jérusalem sortaient vers lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. Or Jean était vêtu de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour des reins, et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie des sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera de l'Esprit-Saint. »
Lecture de l'étude. Marc ne raconte pas la naissance de Jésus. La raison en est simple, elle tient au caractère de l'Évangile. Il s'agit du ministère de Jésus. Dès le début, l'Esprit de Dieu entre en plein dans son activité. Il n'est pas nécessaire de fournir la généalogie d'un serviteur, comme c'était le cas pour le Messie et pour le Fils de l'homme, dont l'un devait descendre de David et d'Abraham, et l'autre, par ses deux patriarches, remonter à Adam. L'évangéliste présente d'emblée la personne qui fait le sujet de son évangile et celui qui préparait son chemin. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Si la généalogie était superflue pour introduire le serviteur sur la scène, l'Esprit de Dieu fait ressortir qui il est, Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est l'évangile qui provient d'une telle personne, présentée par lui-même, venu ici-bas accomplir l'humble service du serviteur prophète. Il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Philippiens 2, versets 6 à 8. Le messager de l'Éternel devait le précéder, ainsi que l'avaient annoncé Ésaïe et Malachie. « Voici, moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. » Jean le baptiseur avait à préparer le chemin du Seigneur dans le cœur de son peuple, en prêchant le baptême de la repentance. Il invitait les Juifs à confesser leurs péchés. C'est ce que l'Évangile dit en premier lieu aux pécheurs, car il faut reconnaître et confesser ses péchés afin que celui qui en a le pouvoir puisse les pardonner. Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. De toute la Judée et de Jérusalem en sortait vers Jean pour être baptisé dans le Jourdain en confessant ses péchés. En même temps, Jean annonçait en ces termes la venue de Jésus. « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie des sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera de l'Esprit-Saint. » Nous ne trouvons pas ici, comme en Matthieu, les pharisiens qui venaient se faire baptiser par hypocrisie. Aussi, Jean s'adresse à ceux qui confessaient leurs péchés en toute droiture et leur annonce Christ qui les baptiserait de l'Esprit-Saint sans ajouter « et de feu », ce qui indiquait le jugement que Christ exécuterait un jour sur les méchants. Ici, Marc annonce son ministère de grâce envers les pécheurs. Baptême et tentation de Jésus, versets 9 à 13.
Lecture de la parole. Et il arriva, en ces jours-là, que Jésus vint de Nazareth, de Galilée, et fut baptisé par Jean au Jourdain. Et s'éloignant aussitôt de l'eau, il monta, et vit les cieux se fendre, et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Il y eut une voix qui venait des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » Et aussitôt l'Esprit le pousse dans le désert, et il fut dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Lecture de l'étude. Le récit du baptême de Jésus est très succinct. Il arriva, en ces jours-là, que Jésus vint de Nazareth de Galilée et fut baptisé par Jean au Jourdain. Et s'éloignant aussitôt de l'eau, il monta et vit les cieux se fendre, et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui, et il y eut une voix qui venait des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » La voix du Père s'adresse à son Fils, proclamant que celui qui prenait la place de serviteur au milieu des pécheurs repentants était son Fils bien-aimé, en qui il a trouvé son plaisir. En Matthieu, la voix se fait entendre à tous. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Tous devaient entendre le témoignage rendu par le Père à son Fils. Aussitôt après son baptême, l'Esprit pousse Jésus dans le désert, et il fut dans le désert 40 jours, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Ce précieux Sauveur, homme parfait, subit la tentation dans des circonstances bien différentes du premier Adam. Ce dernier fut tenté dans le jardin d'Éden, lieu de délices, et c'est là qu'il succomba. Sa chute amena cette création au point où Jésus la trouva, caractérisée par un désert, lieu dépourvu de tout ce que Dieu y avait placé pour le bonheur et le bien-être de sa créature. Satan en était l'hôte, et, détail qui ne se trouve qu'en Marc, malgré la brièveté de son récit, les bêtes sauvages le hantaient, contraste étrange avec Éden, conséquence terrible de la chute. Dans ce milieu, image du monde, Jésus subit l'épreuve à laquelle le premier homme succomba immédiatement. Mais l'épreuve terminée, les ressources viennent du ciel. Pour servir son Fils bien-aimé, Dieu envoya ses anges qui servent aussi en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, a pris cette position dans laquelle il dépendait des anges qu'il avait créés lui-même, et cela pour apporter la grâce de Dieu à des hommes coupables de tous les dégâts amenés par le péché dans cette création. Il ne pouvait servir qu'en venant comme homme dans les lieux mêmes où le péché avait accompli ses ravages. Quel amour merveilleux, infini. Jésus prêche l'évangile du royaume, versets 14 à 15.
Lecture de la parole. Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. »
Lecture de l'étude. Le service, bien court du plus grand des prophètes, était terminé. Luc 7, verset 28.
Je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean le baptiseur, mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui.
Jean le baptiseur, jeté en prison, laissait toute la place à celui, infiniment plus grand que lui, dont il s'était déclaré indigne de délier la courroie de la sandale. Jésus quitte la Judée où Jean avait été livré et commence son service en Galilée, contrée méprisée par les Juifs de Judée. Là, il annonce l'évangile aux pauvres, Matthieu 11, verset 5.
Les aveugles recouvrent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont rendus nets et les sourds entendent et les morts sont ressuscités et l'évangile est annoncé aux pauvres.
Il prêche l'évangile du royaume de Dieu disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous et croyez à l'évangile ». Il s'agit du temps qui précédait l'établissement du royaume de Dieu, annoncé par les prophètes et indiqué très exactement en Daniel 9, versets 23 à 26.
Au commencement de tes supplications, la parole est sortie et je suis venu pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du Prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement, et jusqu'à la fin il y aura guerre, un décret de désolation.
Le royaume s'était approché dans la personne de Jésus, mais pour en profiter, il fallait se repentir et croire à l'Évangile. Car le royaume de Dieu, caractérisé par ce qu'est Dieu moralement, ne pouvait s'établir avec des hommes pécheurs sans jugement porté sur eux-mêmes. Il fallait la repentance et la foi en cette bonne nouvelle qui annonçait l'événement attendu depuis si longtemps par les fidèles. Aujourd'hui, l'Évangile de la grâce est aussi proclamé, et ce sont de même des pécheurs repentants qui en profitent par la foi. Nous avons déjà parlé plusieurs fois de la différence existante entre l'évangile du royaume et celui de la grâce. Elle consiste dans la position et le caractère de Christ au moment où l'évangile est prêché. Lorsqu'il était sur la terre, le royaume s'était approché des hommes. Il était au milieu d'eux dans sa personne. Ils auraient dû le recevoir. Aujourd'hui, Christ est dans le ciel, Seigneur et Sauveur rejeté, après avoir accompli le sacrifice en vertu duquel tout pécheur peut être sauvé par la foi. C'est là le sujet de l'Évangile. Après l'enlèvement des saints, Christ sera présenté dans la position du roi rejeté, mais qui va revenir. C'est ce qu'il faudra croire en se repentant pour être admis dans le royaume qu'il établira alors en gloire. Après son apparition en gloire, il enverra encore des messagers pour annoncer son avènement glorieux aux nations et à ceux d'Israël qui n'en auront pas été témoins. Ésaïe 66, versets 18-21.
Et moi, leurs actes et leurs pensées sont devant moi. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et les langues, et elles viendront et verront ma gloire. Et je mettrai au milieu d'eux un signe, et j'enverrai les réchappés d'entre eux vers les nations. À Tarsis, à Pul et à Lude, qui bandent l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines qui n'ont pas entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire, et ils raconteront ma gloire parmi les nations, et ils amèneront tous vos frères d'entre toutes les nations, en offrande à l'Éternel sur des chevaux et sur des chars et dans des voitures couvertes et sur des mulets et sur des dromadaires à ma montagne sainte à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les fils d'Israël apportent l'offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel, et j'en prendrai aussi d'entre eux pour sacrificateurs, pour lévites, dit l'Éternel.
Appel de quelques disciples, versets 16 à 20.
Lecture de la parole. Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, ayant quitté leur filet, ils le suivirent. Et passant de là un peu plus avant, il vit Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, et eux étaient dans la nacelle, raccommodant les filets. et aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la nacelle avec les gens à gages, ils s'en allèrent après lui.
Lecture de l'étude. Tout le service de Jésus était devant lui. Son amour seul et sa toute science pouvaient en sonder l'étendue, et lui seul, dans sa dépendance de son Père, pouvait fournir la somme de dévouement et d'activité nécessaire. Mais il voulait s'adjoindre des compagnons pour accomplir cette œuvre. En marchant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Image frappante de ce que le Seigneur allait entreprendre au milieu des hommes qu'il fallait tirer de l'élément dans lequel ils avaient vécu pour les amener à lui. Jésus leur dit, « Venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, ayant quitté leur filet, ils le suivirent. Il les appelle, malgré leur inconscience quant à ce service et leur incapacité naturelle pour l'accomplir. Mais en lui se trouvaient toutes les ressources. Il leur dit, « Venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Ces simples paroles nous donnent toute la vérité à l'égard de la formation d'un serviteur de Dieu. Il lui faut trois choses. Premièrement, être appelé par le Seigneur. Deuxièmement, le suivre. Troisièmement, être enseigné de lui. Lui seul peut former celui qu'il veut employer. En le suivant, on apprend de lui. Ses disciples, en le voyant agir, pouvaient s'inspirer des motifs qui le faisaient travailler, de cet amour qui ne demande qu'à se dépenser dans l'obéissance pour faire des heureux, car le travail de Jésus était, par excellence, le travail d'amour, 1 Thessaloniciens 1, verset 3.
Nous souvenons sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour et de votre patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Jésus vivait sous la dépendance de son Père pour servir, ainsi qu'il l'exprime. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père, car quelque chose que celui-ci fasse, cela le Fils aussi de même le fait, Jean 5, verset 19. Les disciples aussi, enseignés de lui et le voyant agir, pouvaient accomplir la même œuvre. La condition importante pour eux, comme pour nous aujourd'hui, est de le suivre. On ne peut rien apprendre de lui sans cela. Passant plus avant, Jésus vit Jacques et Jean qui raccommodaient des filets dans une nacelle avec leur père Zébédée et leurs domestiques. Il les appela aussitôt. Ils le suivirent sans raisonnement, ni objection quelconque. Il y avait dans le Seigneur Jésus, malgré l'humilité qui le caractérisait, une autorité qui se légitimait à la conscience de celui qui l'appelait et que ressentaient ceux qui l'écoutaient. Ainsi se justifiait la conduite de celui qui était appelé. Il en va de même aujourd'hui pour ceux que le Seigneur convie à son service. Dieu veuille que parmi nos lecteurs, beaucoup obéissent à sa voix. Tous, quelles que soient nos circonstances, nous avons à être utiles au Seigneur. Mais pour cela, il faut l'écouter, le suivre et l'imiter. Ceux qui croient jouissent de cette part, et c'est en pratiquant ces préceptes que se manifesteront ceux que le Seigneur invite à un service spécial pour lui. À celui qui a, il sera donné encore davantage. Un démoniaque dans la synagogue, versets 21 à 28.
Lecture de la parole. Et ils entrent dans Capernaum, et étant entrés aussitôt dans le jour du sabbat dans la synagogue, il enseignait. Et ils s'étonnaient de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde. Et il s'écria, disant, « Ah ! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je te connais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le tança, disant, « Tais-toi, et sors de lui. » Et l'esprit immonde, l'ayant déchiré, et ayant crié à haute voix, sortit de lui. Et ils furent tous saisis d'étonnement, de sorte qu'ils s'enquéraient entre eux, disant, « Qu'est ceci? Quelle doctrine nouvelle est celle-ci? » Car il commande avec autorité même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt tout alentour dans la Galilée.
Lecture de l'étude. Jésus et ses disciples vinrent à Capernaum et entrèrent aussitôt dans la synagogue le jour du sabbat. Le mot « aussitôt » qui revient 11 fois dans ce premier chapitre exprime bien l'activité incessante qui caractérise le parfait serviteur dans l'accomplissement de son service et qui devrait nous caractériser tous. L'apôtre Paul dit, quant à l'activité, pas paresseux, fervents en esprit, servant le Seigneur, Romains 12, verset 11. Christ en a été le modèle parfait. Jésus enseignait dans la synagogue. Ses auditeurs s'étonnaient en l'écoutant, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. L'enseignement qui vient de Dieu à force de loi, car qui pourrait faire autorité si ce n'est la parole de Dieu ? Apprendre de Dieu par sa parole et être dirigé par le Saint-Esprit, cela donne à la prédication d'un évangéliste l'assurance et la persuasion nécessaires pour placer ceux qui l'écoutent sous l'autorité de la Bible et leur faire remarquer la différence entre l'enseignement divin et celui de la sagesse humaine, malgré la faiblesse de l'instrument et son manque d'érudition. En Jésus, tout était parfait, parce que rien en lui n'entravait la libre action de l'Esprit et le sortait avec toute la pureté de la source. Dans la synagogue se trouvait un homme possédé d'un esprit immonde que la présence de Jésus manifesta aussitôt. Peut-être les assistants n'en avaient-ils pas conscience. « Ah ! S'écria-t-il, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je te connais qui tu es, le Saint de Dieu. » Les démons connaissent leur juge dans la personne de celui qui a pris la forme de serviteur pour arracher à leur puissance l'homme qui y était tombé par sa propre faute en écoutant la voix de Satan. Jésus tança le démon en lui ordonnant de se taire et de sortir de cet homme. Le Seigneur ne veut pas recevoir le témoignage du diable. L'esprit immonde sortit du malheureux en le déchirant et en criant. Saisi d'étonnement, tous disaient « Qu'est ceci ? Quelle doctrine nouvelle est celle-ci ? Car il commande avec autorité même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt tout alentour dans la Galilée. Ainsi l'autorité de Jésus, au début de son service, se manifesta de 3 manières. Dans l'appel de ses disciples, dans son enseignement public, dans l'expulsion des démons. L'autorité divine, mise à la disposition de l'amour, venait délivrer l'homme des conséquences du péché et de la puissance de l'ennemi. Si l'homme avait su écouter ce prophète, quelle bénédiction serait résultée alors comme de nos jours. La belle-mère de Pierre, versets 29 à 39.
Lecture de la parole. Et aussitôt, sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était là couchée ayant la fièvre, et aussitôt ils lui parlent d'elle. Et s'approchant, il la fit lever en la prenant par la main, et aussitôt la fièvre la quitta, et elle les servit. Et le soir étant venu, comme le soleil se couchait, on lui apporta tous ceux qui se portaient mal, et les démoniaques. Et la ville tout entière était rassemblée à la porte. Et il en guérit plusieurs qui souffraient de diverses maladies, et chassa plusieurs démons, et ne permit pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Et s'étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, il sortit, et s'en alla dans un lieu désert, et il priait là. Et Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent. Et l'ayant trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Et il leur dit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et chassait les démons.
Lecture de l'étude. En sortant de la synagogue, Jésus entra dans la maison de Simon et d'André, et aussitôt on lui parla de la belle-mère de Pierre qui souffrait de la fièvre. Le Seigneur s'approcha d'elle et la fit lever, en la prenant par la main. Aussitôt la fièvre la quitta et elle les servit. Le péché, en séparant l'homme de Dieu, l'a privé de la paix, du calme et du repos qui auraient été sa part à toujours sans la chute. Il a produit, au contraire, l'agitation, l'inquiétude qui trouble toute sa vie
et dont la fièvre est une figure. Or, comme cette fébrile activité de l'homme se rapporte toute à lui-même, elle l'empêche de servir Dieu. C'est pourquoi, dès que la belle-mère de Pierre fut guérie, elle les servit. L'amour, qui trouve son bonheur à servir, remplace l'agitation du cœur de l'homme qui ne peut obtenir le repos dans les choses de ce monde. Quelle merveilleuse grâce qu'il puisse en être ainsi. L'activité incessante de Jésus continue à se dépenser envers tous. Le soir étant venu, comme le soleil se couchait, moment favorable pour sortir dans les pays chauds, on lui apporta tous ceux qui se portaient mal et les démoniaques. Et la ville tout entière était rassemblée à la porte. Et il en guérit plusieurs qui souffraient de diverses maladies, et chassa plusieurs démons, et ne permit pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Nous avons déjà vu que les démons, les anges déchus, connaissaient Jésus. Il y a un monde d'esprit qui nous est invisible, ce domaine où se meuvent les bons comme les mauvais anges, dans lequel règne une activité dont nous nous faisons une idée fort imparfaite, soit en bien, soit en mal. Les uns sont agents de Dieu, les autres agents de Satan. Ceux qui sont déchus connaissent le jugement inévitable qui les attend et savent qui l'exécutera. Ils croient que Dieu existe et ils en frissonnent. Jacques 2, verset 19.
Tu crois que Dieu est un, tu fais bien, les démons aussi croient et ils frissonnent.
S'ils le voyaient homme sur cette terre, cela ne les empêchait pas de le connaître. Ils pouvaient frissonner en le voyant, car si Jésus était là en grâce, c'était pour les hommes et non pour les anges. On lit en Hébreux 2, verset 16, « Car certes, il ne prend pas les anges, ou la cause des anges, mais il prend la semence d'Abraham. La propitiation est en faveur des hommes qui, par la foi, sont les enfants d'Abraham. » Le matin, avant le jour, Jésus sortit et s'en alla dans un lieu désert pour prier. C'est le serviteur parfait qui réalise la dépendance de son Dieu et Père, dont la volonté le dirige dans toute son activité. Il se lève longtemps avant le jour, afin que l'heure du travail le trouve prêt. Quel modèle en toutes choses ! Puissions-nous l'imiter chacun dans notre petit service, sachant que la prière doit précéder tout travail, pour qu'il soit accompli selon la volonté de Dieu. Les disciples le suivirent, mais ils n'étaient pas avec Jésus lorsqu'il sortit de la ville pour prier. Car nous lisons, et l'ayant trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Jésus leur répondit, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Il n'avait pas à satisfaire la curiosité des foules par ses miracles, mais à répondre à de vrais besoins et à prêcher l'évangile du royaume. Les miracles devaient attirer l'attention sur sa parole et montrer que Jésus était le Messie. Si ces résultats ne se produisaient pas, il allait ailleurs. Il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée. Il est frappant de voir quelle quantité de démoniaques se trouvait au milieu du peuple juif. Cela montre dans quelle mesure l'homme est tombé entre les mains de Satan. Hélas, il y tombera d'une manière plus terrible encore dans un avenir prochain, pour avoir rejeté Christ et la grâce offerte à tous les hommes en vertu de son sacrifice. Guérison d'un lépreux, versets 40 à 45.
Lecture de la parole. Et un lépreux vint à lui, le suppliant et se jetant à genoux devant lui et lui disant, « Si tu veux, tu peux me rendre net. » Et Jésus, ému de compassion, étendant la main, le toucha et lui dit, « Je veux, sois net. » Et comme il parlait, aussitôt la lèpre se retira de lui, et il fut net. Et usant de paroles sévères, il le renvoya aussitôt, et lui dit, « Prends garde de ne rien dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a ordonné, pour que cela leur serve de témoignage. » Mais lui, étant sorti, commença à beaucoup publier et à divulguer ce qui était arrivé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville. Mais il se tenait dehors dans des lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts.
Lecture de l'étude. Un lépreux vint à lui, le suppliant, et se jetant à genoux devant lui, lui disant, « Si tu veux, tu peux me rendre net. » Ce lépreux avait sûrement entendu parler des miracles que Jésus accomplissait en faveur de tant de malheureux. Il ne ressentait aucun doute quant à son pouvoir, mais n'avait pas encore compris que l'amour de Dieu avait amené Jésus ici-bas spécialement pour délivrer les malheureux de leurs infirmités. C'est pourquoi il dit « Si tu veux, tu peux ». Mais Jésus était là, en contact avec toutes les misères humaines, parce qu'il le voulait. Et Jésus, ému de compassion, étendant la main, le toucha et lui dit « Je veux, sois net ». Ainsi, le lépreux trouva en Jésus non seulement la volonté et la puissance, mais toute la compassion produite par l'amour parfait. Cet amour se manifestait dans une personne dont la sainteté absolue lui permettait de toucher la plus grande souillure sans être souillée elle-même. Car la lèpre, figure du péché, contaminait quiconque entrait en contact avec elle. Par Jésus, au contraire, le lépreux était rendu net grâce au contact de l'homme-Dieu, descendu jusqu'à ce service. Dans cette guérison, les perfections divines et humaines de Jésus, serviteur parfait, apparaissent avec beauté. La puissance qui délivre, l'amour qui s'est abaissé pour accomplir ce service, la pureté parfaite du Fils de Dieu dans son humanité qui ôte la souillure, l'humilité profonde qui veut éviter les manifestations du public étonné par les miracles, et le dévouement qui cherche sa satisfaction dans l'accomplissement de la volonté de son Père et non dans les acclamations de la foule. C'est pourquoi, usant de paroles sévères, il renvoya aussitôt l'homme et lui dit « Prends garde de n'en rien dire à personne ». Il lui enjoint seulement de se montrer au sacrificateur en conformité avec l'ordre établi de Dieu en Lévitique 13 et 14, pour que, dit-il, cela leur serve de témoignage. Par cette guérison, le sacrificateur avait devant lui le témoignage irrécusable que Dieu était au milieu de son peuple, car lui seul pouvait guérir la lèpre, comme lui seul pouvait ôter le péché. Au lieu de se taire, l'homme commença à beaucoup publier et à divulguer ce qui était arrivé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville. Mais il se tenait dehors dans des lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. On comprend que cet homme avait besoin de faire connaître sa grande délivrance. Mais si cette circonstance empêcha Jésus d'entrer dans la ville, elle manifesta ceux qui avaient de réels besoins et qui allaient à lui de toutes parts. Ce premier chapitre nous offre un tableau merveilleux et caractéristique de l'activité de Jésus, serviteur et prophète au milieu des hommes. Les faits sont rapportés de manière à ne laisser aucun doute sur le caractère de Jésus dans cet évangile, en sorte qu'il ne peut être confondu avec les traits sous lesquels l'Esprit de Dieu le présente dans les autres. Qui pourrait écrire de cette manière, si ce n'est sous l'inspiration divine ?